Patrick Legland, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur global de la recherche à la Société Générale. Alors, on va parler avec vous de notre environnement économique et financier. Si on commence peut-être par l'Europe, on a eu l'impression que pour une fois, un sommet européen plaisait aux investisseurs internationaux. Est-ce que de votre point de vue, il y a un véritable changement ou est-ce qu'il faut d'ores et déjà se méfier de cet optimisme retrouvé?
Alors, à la fois, la crise financière est toujours là, la crise européenne est toujours là, mais on a quand même vu des avancées tout à fait fondamentales. Ces avancées, c'est plusieurs sujets. Premier point, le fait que l'ESM, le FSF, va pouvoir intervenir directement sur la dette primaire, ça c'est une avancée tout à fait majeure. Deuxième point, on a la création potentielle de ce qu'on appelle des Eurobills, qui seraient pour financer la dette court terme. 10% du PIB européen, c'est 1 200 milliards. C'est-à-dire qu'on est quelque part dans une autre forme de LTRO. Et troisième point, on a le fait que très clairement, les dirigeants européens se sont intéressés à la croissance. Alors bien sûr, 125 milliards, 1% du PIB, c'est pas grand-chose, mais c'est quand même déjà une avancée très intéressante.
Donc on pourrait dire après quand même plusieurs semaines difficiles, un début de, je dirais, de perspectives plus favorables sur des solutions en fait, un certain nombre de solutions trouvées pour les investisseurs. Est-ce que les dossiers pour autant grecs, espagnols, italiens sont mis de côté ou est-ce qu'ils peuvent revenir? Et je pense peut-être plutôt à la
Ah
Grèce
oui, bien
qui
sûr,
on sait que.
vous avez tout à fait raison. En fait, je crois qu'il faut mettre ça dans le contexte de cette crise européenne. On a d'un côté les gouvernements qui ont assez bien réduit les déficits publics. C'est-à-dire qu'on est passé au niveau européen, en gros, de 5,5% en 2009, 4% en 2011, et on ne va pas être très loin des 3,5% sur 2012. Donc c'est un assez bon travail, y compris d'ailleurs la Grèce, qui a réduit ses déficits publics au second semestre 2011. Mais en face de ça, comme la croissance a disparu, on est en croissance négative dans la majorité des pays européens, la dette, elle, continue à monter. Donc on voit bien qu'on a une équation qui n'est pas bonne, et quelque part, détérioration donc sur la Grèce, des fondamentaux au niveau de la dette. Sur l'Espagne, on a la problématique du secteur immobilier. Donc oui, vous avez tout à fait raison, la crise n'est pas finie.
Alors, on pourrait dire que pour la Grèce, on va retrouver, pour la France, pardon, on va retrouver cette même question, à savoir croissance rigueur. On voit toutes les annonces qui arrivent, on va avoir des précisions dans les prochaines semaines, bien entendu, mais on se rend bien compte que ça va être difficile d'avoir de la croissance avec autant de nouvelles taxes.
Oui, de toute façon, je crois que si on reprend l'angle européen, le consensus sur 2013 est à 0,9% de croissance sur 2012. Nous, 2013, pardon, nous à la Société Générale, on nous attendons 0% de croissance sur 2013. C'est-à-dire que quelque part, l'environnement va être très difficile. Alors bien sûr, la France, comme tous les autres pays européens, sera impactée par ce ralentissement. Et il sera en effet bien sûr très difficile de réduire la dette dans ce contexte de non-croissance.
Alors, on pourrait dire, si on regarde un petit peu dans notre rétroviseur économique, que jusqu'à présent, on avait de bonnes nouvelles côté américain. Et d'ailleurs, la plupart des intervenants disaient finalement aux États-Unis, c'est en train de repartir, ça repart. Et puis, on a eu récemment des chiffres moins favorables. On a l'impression que ça cale aux États-Unis. Est-ce que c'est lié à la zone euro? En tout cas, il n'y a pas vraiment d'endroit très sûr en ce moment.
Oui, vous avez tout à fait raison. Quelque part, tous les grands pays actuellement dans le monde sont en train de ralentir. C'est-à-dire les États-Unis, on va être sur une croissance entre 1,5 et 2%. Nous n'attendons pas de récession aux États-Unis, mais quelque part, la croissance sera extrêmement molle et en tous les cas, pas suffisante pour permettre une baisse du chômage et une baisse des déficits. On a vu aussi l'Asie, c'est-à-dire tous les pays asiatiques qui, malheureusement, sont en train de ralentir. La Chine, on a aussi le Brésil, on a aussi l'Inde. Et bien sûr, impact de la crise européenne avec une Europe qui s'enfonce tout doucement, qui s'effrite vers à minima un ralentissement et éventuellement une récession.
On pourrait dire aussi qu'une des notions qui a disparu, c'est le découplage. Le découplage des marchés émergents, c'est clair que maintenant la mondialisation fait que finalement toutes nos économies, plus ou moins, bien sûr, plus ou moins fortement, mais sont liées.
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire quelque part, les économies sont liées, voire aussi que beaucoup de pays émergents ont eu en fait une croissance assez forte et préservée par des taux d'intérêt réels négatifs. Ces taux d'intérêt réels négatifs, c'est le cas de la Chine, ont créé des bulles, bulles notamment sur le secteur immobilier, bulles sur les investissements d'infrastructures, et il faut que quelque part cette bulle se dégonfle. Donc ça ne remet pas en cause la croissance très long terme de ces pays, mais en même temps, on a peut-être sur le court terme quelques trimestres où les économies vont devoir consolider.
Alors, du côté des investisseurs, c'est pas évident dans ce contexte qu'on a rappelé ensemble d'aller chercher des actifs sûrs. Quand vous voyez justement ce qui s'est passé en Europe où des investisseurs ont acheté du bund allemand à 2 ans à un taux à 0%, donc ils acceptent de perdre malgré tout de l'argent et on commence à entendre dire que c'est plus le safe haven, les bunds allemands ne sont plus donc l'endroit le plus sûr.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on a finalement deux éléments. On a le ralentissement économique, donc ça pèse sur le résultat des entreprises, et on avait la crainte d'un risque, je dirais, systémique au niveau de l'Europe. Ce qui a changé quand même, c'est que les annonces de la semaine dernière, on voit les dirigeants européens qui ont fait une avancée comme assez significative. Donc les investisseurs sont en train de réallouer un petit peu d'actifs risqués, notamment sur la partie actions européennes. N'oublions pas que les actions européennes cotent globalement pas très très loin de l'actif net. Pour beaucoup d'entre elles, ont un assez bon rendement, donc reste un actif intéressant, hormis bien sûr cette crainte ou ce facteur anxiogène. Par contre, les actions américaines qui avaient très 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 bien tenu, elles vont très certainement être impactées par le ralentissement au niveau des résultats. Vous avez raison, le Bund allemand qui avait été vu, comme on appelle, comme un safe haven, aujourd'hui, avec peut-être un peu plus de volonté des investisseurs de revenir vers les actifs risqués, bien évidemment, les obligations allemandes sont peut-être un peu délaissées.
Alors sur la partie action, on va dire que c'était ce que souhaitaient les banquiers centraux, hein, que je dirais, les investisseurs reprennent des risques. Ça n'a pas été le cas. On voyait qu'il y avait très peu de volume, en tout cas depuis le début de l'année. Donc il faudra suivre ça de près, voir si effectivement ce volume des transactions sur les marchés actions vraiment s'installe pour voir si ces investisseurs finaux reviennent sur ces marchés.
Oui, vous avez tout à fait raison. Le rebond que nous avons eu depuis quelques jours, il est lié à deux raisons. Des investisseurs, notamment hedge funds, qui ont coupé ce qu'on appelle des shorts, c'est-à-dire des ventes à découvert. Donc ça a créé un rebond sur le marché. Le fait aussi que les grands fonds internationaux, globalement, ont une part action qui est de l'ordre de 20%. N'oublions pas que de manière historique, la part action de ces grands fonds était de 50 à 60% en actions. Donc en clair, les grands investisseurs sont peu ou pas investis en actions. Donc au moindre rebond, ils doivent se repondérer un petit peu pour ne pas être impactés en termes de performance. Mais vous avez raison, les volumes sont très très faibles. Et pour l'instant, je dirais que les grands investisseurs reviennent avec une extrême prudence sur les marchés.
Alors l'année dernière, à la même époque, ou un mois plus tard, on avait la Grèce encore, on pourrait dire. Cette année, la Grèce est venue plutôt s'inviter pour les investisseurs, dans l'agenda des investisseurs. Passer un été tranquille, c'est quand même, ça devient assez difficile. Quels sont justement les actifs sur lesquels il va falloir aller peut-être se diversifier, aller investir dans cette période en se disant, on ne sait jamais, il peut encore y avoir quelque chose en plein été, une échéance quelconque qui vient polluer l'euphorie.
Je crois que de toute façon, les actions européennes, les actions de qualité européenne, ont des valorisations qui sont extrêmement faibles. Alors bien sûr, ça ne met pas à l'abri d'un choc, mais acheter des actions européennes aujourd'hui, en étant peut-être un peu patient, prendre des actions avec un fort rendement, de qualité, avec une marque importante, c'est certainement un bon investissement pour le moyen long terme. Après, il peut y avoir des secousses pendant l'été, des chocs conjoncturels. Néanmoins, prenons en compte quand même que les avancées qui ont été prises par les dirigeants européens, à la fois sur le refinancement de l'Espagne et de l'Italie, le fait de vouloir attaquer peut-être un certain nombre de réformes structurelles, vont dans la bonne direction. Maintenant, la grande question, c'est est-ce que le ralentissement va se transformer en récession? Si c'était le cas, bien sûr, les résultats seraient vus fortement à la baisse. Et ça pourrait entraîner des mouvements de consolidation, de correction pendant l'été.
Alors, le mot de conclusion, on avait eu aussi beaucoup d'intérêt pour le crédit dans cette période. On a beaucoup parlé des obligations des entreprises, justement, ou des obligations à haut rendement. De votre point de vue, est-ce qu'il y a encore de l'intérêt sur ces actifs-là ?
Alors, nous restons très positifs sur les obligations à haut rendement. Par contre, donc ça reste une très belle classe d'actifs. Par contre, il y a un élément, je dirais, technique très simple, c'est qu'il y a très peu de liquidités sur cette classe d'actifs et très peu d'émissions. Donc, en théorie, c'est un actif à surpondérer dans un portefeuille. Par contre, finalement, l'offre est relativement faible pour les investisseurs. Donc, c'est la raison pour laquelle les obligations, je dirais classiques, certainement restent intéressantes, même si on verse à la haut rendement. Après, les emprunts d'État, on en a parlé, notamment sur l'Allemagne, on aura très certainement une correction ou à minima une consolidation les prochains mois.
Merci Patrick Legland d'avoir été avec nous. Donc, on rappelle que vous êtes directeur global de la recherche à la Société Générale.
Merci de m'avoir invité.